Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine Feel Good, dédié au bien-être, au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Alors ce matin, Mélanie, par quoi on attaque?
Eh bien Julia, on va aborder un sujet qui vous tient à cœur tout particulièrement. Oh, le rangement, le tri, l'organisation de nos intérieurs. Vous avez l'air hyper sympa quand je dis ça, que c'est votre passion.
J'adore ranger, c'est ma passion.
Allez, on va intéresser tous les fans, Julia, comme vous, de la méthode de la japonaise Marie Kondo. Et pour ce faire, on va se poser cette question. La méthode Marie Kondo, justement, est-ce la méthode de rangement idéale? Pour y répondre, nous recevrons la coach en rangement, Christine Tessier.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura comme chaque jour notre dossier santé-bien-être. Et aujourd'hui, on va mettre à l'honneur une méthode simple et rapide pour apprendre à gérer notre stress, un véritable fléau pour des millions de personnes. Et bien grâce aux découvertes des neurosciences et à son expérience au de ses patients, le docteur David Gourion a élaboré une méthode accessible à tous. Il va nous la détailler.
Ensuite, Julia, à midi, nous serons dans notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui nous font du bien. Il y aura d'abord le chef Abdel Alaoui qui nous dira aujourd'hui pourquoi le brunch est toujours autant à la mode. Mais alors, en 2022, que mettons dedans? Comment se régaler sans passer 3 heures en cuisine? Il nous dira tout. Ensuite, comme tous les mardis, il y aura la chronique sportive de notre coach Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, il nous explique pourquoi la récupération, c'est presque aussi important que le sport en lui-même, et il nous donnera ses meilleurs conseils pour mettre tout ça en pratique.
Et enfin Mélanie, on va finir ce tour de table des tendances avec les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Il va mettre en avant ce midi des ingrédients de saison, pas dans notre assiette, mais des ingrédients bons pour notre peau, tout particulièrement en hiver.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous. Vous êtes sur Europe 1, dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on fait tout pour vous être vraiment utile au quotidien. Et ce matin, on va s'immiscer un peu dans vos intérieurs. Avec cette question, la méthode Marie Kondo, est-ce la méthode de rangement idéale?
Oui, je pense que la réponse est oui.
Bon voilà,
allez, à demain. Non, oui Mélanie, je sens que je vais adorer cette émission. Je suis déjà tout émoustillée. Le rangement, l'ordre, c'est la vie. En tout cas, c'est la mienne. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes des reines ou des rois du ménage, de l'ordre comme moi, ou bien vous cultivez un certain bordel organisé plutôt comme chez Mélanie Gomez, jalouse quand même, je dois vous dénoncer. Quand vous avez vu l'intérieur de mes placards avec chaque chose à sa place, ça vous a plu? Non,
c'était tellement rangé, c'est incroyable,
c'était presque flippant
mon objectif.
Bref, ne vous inquiétez pas, on va détailler toutes les meilleures astuces de rangement dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant cela, avec lui, c'est toujours bien rangé dans sa tête. Dans sa tête, j'ai dit.
Même
si je sais pas comment c'est chez lui. Bonjour Clément Lanou.
Bonjour tout le monde. Effectivement, on aime parfois diviser la France, la droite contre la gauche, les jeunes contre les vieux. Là, il y a un vrai combat, les gens ordonnés contre les gens bordéliques.
C'est ça.
Mélanie, est-ce que
c'est
vous avez choisi...
C'est un match entre Julia et moi.
Voilà, Mélanie, je crois que vous avez choisi un camp qui est celui...
Oui, je ne vais pas le dire parce que ma maman ne sera pas du tout contente.
J'y travaille. Julia, vous êtes la capitaine du rangement. Ouais. Je dois le dire en antenne, un jour, elle m'a demandé, je déménageais, si elle pouvait venir ranger chez moi.
C'est
comme
vrai.
Ça.
C'est vrai. Elle fait des propositions bizarres parfois. Hein.
Je veux venir ranger à la maison, pas de problème. Alors, les Français sont-ils plutôt bordéliques, plutôt ordonnés? Éléments de réponse, il y en a pour tout le monde.
Bordélique.
Moi, je suis très ordonnée.
Bordélique. Entre les deux.
Ouais, moi aussi, entre les deux, ça dépend.
J'aime bien ranger, j'aime bien que les choses soient à leur place, etc.
Entre les deux. J'ai pas vraiment... Enfin, c'est ça, c'est les deux. Des fois, je vais laisser des affaires traîner, mais je vais les ranger dans la semaine. Quand on a une chambre rangée, l'esprit est rangé, donc voilà.
C'est compliqué.
Comme moi, je vais les ranger dans l'année,
c'est
prévu.
Ça. Les bordéliques disent « Non, mais j'aime ce bazar organisé ». Les très ordonnés disent toujours « Non mais je suis pas maniaque, c'est juste que j'aime bien ranger
».
Alors on va encore apprendre dans quelques minutes de nouvelles techniques de rangement. Mais juste avant, j'en ai demandé, est-ce qu'il y en a des nouvelles? Comment vous faites pour ranger chez vous?
C'est faire les trucs par ordre. On commence par ce carton, mais on va ranger ça, ça, ça. Et...
Pour moi, ranger, c'est compartimenter. Ça veut dire trouver des tiroirs, des petites caisses de rangement et y mettre à chaque fois un truc avec un thème, genre les vêtements, ça va être mes chaussettes, mes collants.
Alors il faut faire des listes de choses à faire. Donc dans l'ordre, tu fais ce que tu dois faire, tu les fais, tu les respectes, parce qu'après si tu les respectes pas, ça fait tout désordre. Ensuite, faut que tout soit bien dans ta tête. Si c'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton dans ton truc.
Ouais, bon, je suis pas sûr que ça nous aide. On aura des vraies réponses tout à l'heure.
Je peux dire un truc concernant Julia? Elle a même les chaussettes triées par couleur.
Mais évidemment, c'est la base.
Est-ce que les livres chez vous sont par ordre alphabétique?
Par hauteur, oui.
Par hauteur, déjà, c'est un bon début. J'ai une autre technique aussi. Alors, une technique que m'a donnée une ado qui peut fonctionner quand on a envie de ranger ou pas de ranger.
Je regarde tout ce que j'ai à ranger. Et si je me dis que ça prend moins de 2 minutes, je le fais direct. Et sinon, j'attends d'avoir un vrai moment pour faire du tri, etc. Parce que quand il y a plus de 2 minutes, c'est qu'il faut vraiment faire du tri.
C'est la technique de flemmard, mais ça peut marcher. C'est-à-dire, s'il y a pour plus de 2 minutes, je le ferai plus tard. Sinon, allez, je fais un petit peu tous les jours 2 minutes. Il y a aussi une méthode qu'utilisent beaucoup de parents. Je sais que moi, ma mère faisait ça.
Avec moi, le rangement, c'est facile. Je prends tout ce qui traîne et je jette. J'ai fait plusieurs fois ça dans la chambre de mes filles et je peux vous dire qu'après, c'est bien rangé.
Voilà, ça vous le faites
quand
une fois.
Quand il n'y a plus rien, effectivement.
Et vos enfants rangeront très très bien après. Alors pour les moins organisés qui nous écoutent, comment faire ?
Moi, je suis très bordélique pour le coup, donc je pourrais pas vous donner de conseils.
Ah, j'ai pas eu de conseils, mais quand on creuse un peu, même un bordélique peut nous donner quelques idées.
Tout est entassé sur mon bureau, donc pour le coup, je cache rien du tout.
Rien du tout, voilà, tout entassé. Pour les vrais bordéliques comme moi, il reste quand même la vraie technique. Je terminerai par celle-ci. Comment faire ? Voici la seule et unique solution.
Alors moi, c'est surtout quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Ce que je fais, c'est que je mets tout sous le lit et dans les placards. Comme ça, ils ont l'impression, quand ils y rentrent, que je suis très ordonné.
Voilà.
Moi, je mets tout dans ma chambre, comme ça, et le salon est nickel.
Le rangement apparent, le rangement apparent. J'espère que vous allez être, que vous allez me donner des meilleures techniques.
Rien à voir, je crois. Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour cette petite mise en bouche très instructive déjà sur notre premier sujet du jour. On va à présent accueillir notre invité pour voir les choses plus en détail, pour bien ranger. On va ranger avec vous, Christine Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach en rangement. En anglais, on dit home organizer. Vous êtes spécialiste agréée de la méthode Marie Kondo. Alors moi, je sais, parce que j'ai vu un poster d'elle dans la chambre de Julia, je sais qui c'est Marie Kondo, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler quand même, est-ce que vous pouvez nous la présenter, Marie Kondo ?
Oui, alors Marie Kondo, c'est une japonaise qui a écrit un best-seller qui s'appelle La magie du rangement en 2015, qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et qui a un tout petit peu révolutionné les méthodes de rangement. En proposant une méthode qui permet de ranger une seule fois et pour toujours. Donc ça fait rêver, d'où le titre du livre « La magie du rangement ». Donc, on est dans quelque chose de très positif, sans jugement et surtout avec des résultats qui sont pérennes.
C'est elle aussi qui a un petit programme sur une plateforme qu'on ne va pas citer, mais peu importe, vous la trouverez facilement, et qui parle à ses vêtements. Marie Kondo parle à ses vêtements. Vous ne l'avez pas vue, cette série, c'est formidable.
Alors, si, bien sûr, elle est géniale. Je dois avouer que je ne suis pas très fan de la série.
C'est vrai.
Je préfère les livres.
Et pourquoi vous n'êtes pas fan de la série ?
Bien, je trouve que connaissant Marie Kondo et connaissant la connaissant personnellement et connaissant sa méthode, je trouve que
on est un peu perché.
Oui, on est dans quelque chose qui est quand même pas très très qui est assez formaté pour répondre à un type d'émission.
Vous parlez à vos chemises, vous, Clément ?
Pas du tout. J'ai essayé de leur dire pliez-vous, repassez-vous et ça ne fonctionne pas. Je fais tout moi-même du coup.
Et vous avez fait la formation Marie Kondo à Londres, c'est bien ça ?
Oui, absolument.
Vous l'avez rencontrée en vrai ?
Oui, complètement. Oui. Marie Kondo
vous
est là
jalouse,
sur les formations. Oui, absolument. Et oui, c'est une formation qui est très exigeante.
En combien de jours ?
Alors. La formation s'étend, je vais dire, entre un an et 1 an et demi à peu près.
Ah oui,
donc le séminaire, c'est vraiment une partie de la formation. C'est obligatoire. Déjà, avant d'assister au séminaire, il faut avoir lu les 2 livres de Marie Kondo, La magie du rangement et Spark Joy. Je crois qu'il se traduit en français par l'étincelle du bonheur ou quelque chose comme ça. Il faut avoir rangé sa propre maison.
Ils viennent vérifier ?
Selon la méthode. Non, mais on doit soumettre des photos pour vérification.
Oui,
et une fois qu'on a effectivement soumis ces photos, on peut s'inscrire au séminaire. Et ensuite, on passe à la pratique.
Et ben justement, grâce à vous, parce qu'il y a plein de jeunes femmes et de jeunes hommes d'ailleurs qui sont formés à la méthode Marie Kondo et vous aidez donc à présent les gens à ranger chez eux. C'est à ça que ça sert, Mélanie, si vous voulez la faire.
J'ai l'impression que vous, ça vous intéresse fortement.
Mais moi,
je voulais
faire cette formation, je ne parle pas très bien anglais, donc je me posais la question, est-ce que je vais comprendre ce qu'elle me raconte ?
Alors, oui, alors c'est vrai que ça peut être un obstacle parce que déjà, il y a une traduction du japonais en anglais, donc déjà, ça demande pas mal de concentration.
Et en français, ça n'existe pas.
En français, pour le moment, ça n'existe pas.
Bon.
Il y a la méthode Julia Vignali.
Elle va monter son école. Christine Tessier, vous restez avec nous. On va continuer le rangement, le ménage, le tri dans ce studio, mais surtout, on va écouter vos conseils pour appliquer tout ça chez nous, pour gagner de l'espace, avoir un appartement ou une maison moins encombrée. Franchement, même si on n'ose pas se l'avouer, on en rêve tous, non ? D'avoir des placards impeccablement rangés, des tiroirs qui ne débordent plus. Eh bien, pour y arriver très bientôt, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. Et ce matin, on fait le ménage, on fait place nette sur Europe 1.
Ça vous plaît, hein?
Oh là là, depuis le temps que je demande ça. Fini les placards de la cuisine qui débordent, les fringues entassées sur les étagères et les jouets qui ne rentrent même plus dans les coffres de vos enfants. Mais tout ça, c'est fini. Fini grâce à notre invitée. C'est vous, Christine Tessier. Vous êtes home organizer. Je ne sais pas si on dit ça. Bon, bref, vous organisez les
vous
maisons.
Vous allez faire un petit stage à Londres.
C'est... Oui, moi, c'est pour ça que je ne parle pas très bien anglais. C'est-à-dire, en français, vous êtes coach en rangement et vous êtes spécialiste agréé de la méthode Marie Kondo. Amen. Alors, on va reprendre les bases. Quels sont les grands principes, s'il vous plaît, les basiques de la méthode Marie Kondo ? On vous écoute.
Alors, c'est une méthode qui encourage le tri, puis le rangement catégorie par catégorie et non par emplacement. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Alors, c'est vrai que 80% de la méthode, c'est quand même du tri. Mm-hmm. Il faut avoir trié en profondeur et ensuite... Et surtout, ne pas trier par pièce, hein, mmh. par emplacement, parce que ça ne permet pas d'avoir une vision globale des objets qu'on a accumulés, en fait. Mmh. Donc,
Donnez-nous des exemples de catégories qu'on comprenne bien, par exemple.
Alors, par exemple, si on s'attaque au tri des livres, mmh. on peut avoir des livres dans son salon, on peut avoir des livres dans sa chambre, mmh. on peut avoir des livres même dans les toilettes.
Dans la chambre des enfants, il y a encore
d'autres
livres,
il y a d'autres livres, etc. Effectivement, en prenant, en regroupant cette même catégorie, bah, ça nous permet d'avoir cette fameuse vision globale. On voit vraiment tout ce qu'on possède et c'est très important aussi d'être confronté à ses possessions quand on fait ce travail de tri.
Pareil pour les vêtements, donc il y en aura un peu dans toutes les chambres.
C'est ça, voilà, absolument. Et puis
il y a
surtout,
ceux qui sont à la cave dans des cartons.
Absolument, il y a les vêtements de ski qui sont dans des boîtes,
peut-être au grenier.
Voilà, donc on rassemble vraiment tout en un seul endroit. Et on va trier de manière positive. C'est-à-dire que ce que tout le monde a l'habitude de faire, c'est d'ouvrir ses placards et on enlève ce qui ne nous va plus, ce qu'on n'aime plus, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. On choisit vraiment. Alors, Marie Kondo dit ce qui nous apporte de la joie. Moi, je traduirais plutôt par ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne confiance, ce qui correspond à la personne que nous sommes actuellement.
C'est en fait une méthode qui est sur le long terme aussi, parce que l'idée, c'est pas juste de faire un grand ménage de printemps, quoi. C'est pas ça du tout, Marie Kondo.
Ah non, c'est pas du tout ça. C'est surtout ne pas ranger un tout petit peu tous les jours, parce que c'est juste épuisant, ça n'a aucun intérêt. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, ce qui est quand même assez paradoxal pour une consultante en rangement, je leur dis le rangement n'a aucun intérêt. Il faut le faire une fois et pour toujours.
Donc c'est un métier, hein, consultante en rangement, hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez les gens ? On vous appelle, on vous dit SOS et vous arrivez dans des chantiers, des maisons en pagaille, pas possible ?
Pas forcément.
C'est quoi le profil de client ?
Alors, très très varié. J'ai absolument tous les profils. Ça peut être des gens qui ont un vrai sujet sur les papiers, par exemple le tri des papiers, qui vont m'appeler pour ça. Ils ne s'en sortent pas avec le tri administratif.
Ça me parle.
Voilà. Il va y avoir aussi des gens qui, de manière, un peu extrême, ne peuvent pas recevoir, ne s'interdisent de recevoir des amis chez eux ou ne peuvent plus organiser de dîner, n'ont plus de vie sociale parce que. Ils sont dépassés par...
Trop encombrés.
Ça les submerge, en fait. Donc, on a tous les cas de figure.
Alors, vous disiez tout à l'heure que peut-être la méthode Marie Kondo, c'était de conserver des objets qui éveillent en nous une étincelle de joie, si c'est la bonne traduction. Mais comment on sait si on a de la joie en possédant un objet ? C'est quoi ? Quels sont les signes pour reconnaître que ça nous inspire de la joie et qu'on ne peut pas s'en séparer, qu'il ne faut pas s'en séparer ?
Oui. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et c'est là que ma valeur ajoutée, et c'est pour ça que j'ai créé ma société My Better Place pour accompagner ces gens, ces personnes à vraiment se poser les bonnes questions lors du tri. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Est-ce que c'est utile ? Alors oui,
par exemple, dans un salon, qu'est-ce que vous allez... Enfin, je sais pas, les livres, ils sont tous utiles. Enfin, moi, je sais pas, j'ai envie de tous les garder.
Oh là là.
Même si je les relirai pas.
Il faut recommencer à zéro.
Bah oui, mais je sais pas. Moi, expliquez-moi concrètement comment je trie les livres alors.
Pour les livres, alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on sort absolument tout, on les regroupe. Et les questions que je me pose moi, mais après, on peut tomber sur des collectionneurs de livres hein, qui adorent les livres. Alors quelqu'un qui adore les livres.
Tous y sont une étincelle et une joie.
Exactement. Voilà. Donc il y a absolument, là, il n'y a pas de jugement par rapport à ça.
Il n'y a pas de tri à faire, en
l'occurrence. Non, dans ces cas-là,
c'est autre chose
bien
qu'il va falloir
sûr,
trier pour faire de la place. Alors.
Exactement. Ouais. Les collections, il faut les garder. Si ça nous rend heureux dans la vie de tous les jours, si on aime être entouré par ce type d'objets, il faut le garder.
Mais dans votre cas, Mélanie, vous n'êtes pas une collectionneuse.
Non, j'aime mes livres, ils m'ont tous apporté de la joie à un moment donné, si je les ai gardés, en tout cas. Sinon, je m'en suis déjà débarrassée.
Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais le relire ?
Jamais, ça c'est sûr.
Voilà. Ou est-ce que je souhaite le garder parce que la vue de ce livre-là, ben voilà, ça me réconforte, ça m'apporte quelque chose, c'est un objet que j'aime.
Non, mais il y en a que j'espère peut-être que mes enfants liront, donc je les garde aussi pour ça.
Mais vous les rachèterez.
Mais peut-être qu'ils ne les liront jamais puisqu'ils n'ont pas l'air très intéressés par la lecture pour
l'instant.
Oui,
alors ça, attention. Ouais. Attention effectivement aux objets qu'on garde en se disant qu'on va le transmettre hein, parce que ça peut être un vrai piège.
J'ai gardé mes tutus de danse aussi et ma fille s'en fout, elle veut faire du foot. Donc c'est vrai que ça, je devrais m'en débarrasser. Ça veut dire pourtant, c'est sentimentalement, j'y suis attachée.
Alors, si sentimentalement vous y êtes attaché, si ça vous apporte quelque chose, déjà, les objets sentimentaux, si vous souhaitez les garder, il faut les voir.
Ça, ils ont un nom particulier chez Marie Kondo, hein, ces objets sentimentaux, c'est les komonos, c'est ça ?
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les komonos,
je suis loin de la méthode. Hein, pour
on y viendra un petit peu plus tard. Ce sont tous les autres petits objets en dehors des vêtements, des livres et des papiers. D'accord, hein. Donc, les objets sentimentaux, ça peut être des photos, ça peut être des cadeaux, etc. Mais
c'est le plus dur à trier, ça. Hein.
C'est le plus dur, c'est pour ça que ça intervient vraiment en toute fin du processus.
Hein,
il y a un ordre graduel. Donc voilà, mais les objets sentimentaux, pour revenir à votre question, si vous souhaitez les garder, il faut qu'ils soient visibles. Ça ne sert à rien de s'annexer des mètres carrés en les stockant dans des cartons et on va retomber dessus lors du prochain déménagement. Donc il faut que ça soit quelque chose qui soit voilà.
À la vue de tous.
En tout cas,
la sienne.
Je vais mettre mon tutu au-dessus de mon lit. Alors,
exactement. Hein, ça sera... Autrement, ça ne sert à rien de le remiser. Par exemple, justement, beaucoup de gens ont du mal à trier leur dressing et on a la petite robe noire en 5 exemplaires, etc. Qu'est-ce que vous préconisez comme question à se poser devant, par exemple, je ne sais pas, chaque jean, chaque pull que l'on possède ? C'est quoi les questions ?
Alors, c'est déjà, si je voyais cet article maintenant dans une boutique, est-ce que je l'achèterais ?
Pas sûr.
Voilà.
Ça, c'est la première question.
C'est la première question. Deuxième question, ça fait combien de temps que j'ai porté ce vêtement.
Est-ce moi, j'ai une règle, hein, quand même. Au bout d'un an non porté, je considère que je n'en ai plus besoin. Si je ne l'ai pas porté pendant un an, c'est bien, ça ?
Oui, ça peut. Mais le plus important, en fait, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est vraiment un objet ? Est-ce que c'est un vêtement qui met en confiance ? Parce que les vêtements, on les porte, on porte des vêtements, mais très souvent, en fait, ce sont les vêtements aussi qui nous portent. Donc, c'est vraiment important de se sentir en confiance. Et puis, le dressing, ça reste quand même la première chose que l'on voit le matin. C'est la première vision qu'on a le matin.
Bien
sûr. Il faut que ça soit
nickel,
agréable.
Et alors, justement, en parlant de dressing, il y a la méthode de pliage très typique, hein, Marie Kondo, pour ranger son linge notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour bien plier ?
Et bien nous décrire, parce qu'on n'a pas les
images à la radio. Oui, c'est compliqué à la radio, c'est vrai. Mais bon, je vais tenter de vous expliquer. Moi, j'utilise souvent l'image d'une étagère avec des livres, avec des trams. Voilà. Et en fait, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je dis à mes clients. Il faut que tout soit visible. Donc, le pliage dit à la verticale, c'est un petit peu retrouver ces tranches de livres dans vos tiroirs ou dans vos boîtes sur vos étagères. Donc, globalement... très simplement, il faut étaler le vêtement, retrouver une forme rectangulaire dans chaque vêtement. Donc, en repliant, par exemple, un t-shirt, on le replie sur sa moitié. Puis, on vient complètement recouvrir le t-shirt avec l'autre moitié du t-shirt. Donc, on se retrouve avec un rectangle un petit peu long. On le plie une fois en deux et ensuite en trois. Voilà. Et on se retrouve avec des sortes de petits paquets qui ne vont pas être plus froissés qu'un vêtement dans une pile, hein, parce que ce n'est pas le nombre de plis qui va froisser le vêtement, c'est la pression des vêtements les uns contre les autres.
On vous mettra une petite vidéo hein, sur nos réseaux sociaux pour
vous
comprendre
à quoi ça ressemble,
de voir tous ces vêtements. Mais il y a des gens qui ne souhaitent pas plier. C'est très bien aussi de suspendre. Si on a...
Rouler en boule, c'est bien aussi.
Oh, Mélanie Gomez.
Christine Tessier, surtout ne bougez pas, on a encore quelques astuces à vous piquer pour devenir des fées du rangement. Enfin, surtout moi, Julie, elle est déjà parfaite de ce côté-là, au moins, on va dire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on vous donne la parole dans Bienfait pour vous. Vous pouvez nous partager vos propres astuces de rangement ou nous poser vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On découvre aujourd'hui les rudiments, au moins, de la méthode de rangement de la japonaise Marie Kondo. D'ailleurs, c'est notre question ce matin. Cette méthode est-elle la technique de rangement parfaite? On en parle avec vous, Christine Tessier. Je rappelle que vous êtes home organizer, coach en rangement, spécialiste agréé de la méthode Marie Kondo. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas trier donc par pièce. Il faut trier plutôt par type d'objet. Les livres, les vêtements, éventuellement, les jouets des enfants. Enfin, on fonctionne comme ça dans un premier temps. Et puis, la dernière phase, donc, c'est le tri des kimono. Ça, c'est dans la méthode Marie Kondo. Qu'est-ce que c'est que ces kimono? Kimono, et pourquoi c'est le plus difficile à trier?
Alors, ce n'est pas la dernière phase, c'est l'avant-dernière. La dernière étant presque les objets sentimentaux. Ah, c'est très, mais tout à fait. Mais on n'est pas loin du bout du tunnel. Donc, oui, ce sont tous les petits objets qui n'entrent pas dans les catégories que je vous ai citées avant. Donc, ça peut être la vaisselle, les produits d'hygiène, ça peut être les piles, les ampoules, les câbles électriques, voilà, c'est vraiment tous les objets qu'on a accumulés dans la maison. Souvent, vous savez, vous avez le tiroir à bazar, fameux tiroir à bordel, pardon. Hein. Mais et du coup,
ça, c'est un kimono à lui-même. Enfin, il contient plein de kimonos.
Il y a plein de catégories.
Parce qu'il y a des tournevis, il y a un mètre ruban, il y a des agrafes.
Mais ça, c'est bien. Ça, on est sur le bricolage.
Oui, mais enfin non, il y a aussi des trucs qui n'ont rien à voir, des photos d'identité.
Ah,
ça ne se fait pas.
Marie Kondo, c'est pas content.
C'est vrai que l'important, c'est vraiment de catégoriser, en fait, à chaque fois de compartimenter, de catégoriser. Et par exemple, le bricolage, on va le mettre dans une boîte.
À bricolage. C'est où les boîtes à bricolage?
C'est dans l'arrière-cuisine, dans le tiroir, le deuxième en partant de la gauche.
Très bien, c'est clair.
Sinon, les papiers administratifs, franchement, on ne va pas se mentir.
Ils apportent jamais de la joie.
Ça n'inspire pas beaucoup de joie, pas beaucoup de monde. Alors, comment on fait pour bien les ranger et pas,
bien évidemment,
et pas baisser les bras?
Bon, déjà, il y a en France, une peur panique, une espèce de phobie administrative et puis une peur panique de que va-t-il nous arriver si on a perdu un papier?
Est-ce qu'on va perdre sa maison? Il faut conserver ses comptes en banque pendant 3 ans, il faut conserver les impôts, je ne sais pas pendant
10 ans.
Combien de temps.
Voilà. Alors, très, très concrètement, quand on va effectivement, quand on se renseigne sur le temps de conservation des papiers administratifs, on va sur le site.
Oui, c'est très facile à trouver.
C'est
sur
très
Internet,
facile à trouver. Ce que personne ne fait. Il y a des petits astérix, vous savez. Alors, il y a la durée. Alors, par exemple, facture EDF, 2 ans. Et il y a un petit astérix. Et on ne lit jamais ce qu'il y a sur
ce petit astérix. Et ça veut dire qu'il dit quoi ?
Eh bien, il dit que c'est le délai, en tant qu'usager, pour se retourner contre le prestataire de service. Donc, si notre facture EDF, elle est nickel et qu'on n'a pas une somme complètement astronomique qui ne correspond pas du tout à notre consommation,
en fait, tout de suite, quasiment.
On la jette.
Bon, heureusement, tout est digitalisé de plus en plus aujourd'hui.
Voilà, c'est de plus en plus digitalisé.
Moi, ça me rend beaucoup service. Alors, attendez, on a plein de questions. On en a une de Sophie sur Instagram qui dit « Je vais déménager prochainement et je me dis que la méthode Marie Kondo serait un bon moyen de faire du tri en faisant mes cartons, mais il y a tant de choses que ça me déprime. Comment faire pour me motiver? Merci. »
Alors, la première chose pour se motiver, c'est vraiment de visualiser son mode de vie idéal, sa maison idéale. Ça va être le fil rouge qui va nous permettre d'aller au bout de la démarche. Et puis, évidemment, c'est très difficile de le faire seul. Encore plus difficile, je dirais, de le faire avec des amis ou des membres de la famille. C'est bien d'avoir un intervenant compétent, neutre, sans jugement, qui va vraiment vous accompagner en vous posant les bonnes questions.
D'autant plus qu'il y a quand même, c'est pas vous qui le dites, enfin tout le monde le dit, je veux dire Marie Kondo, vous et sûrement des psys pour les confirmer, ranger, ça peut être thérapeutique, cet aspect fait partie de votre méthode?
Oui, parce qu'en fait ça, alors je ne suis pas psy, mais effectivement j'entends, lorsqu'on range sa maison, on range sa tête.
Et j'entends... On a un psy juste derrière, on lui posera la question.
Et j'entends en fait tout ce qui peut nous retenir dans notre éducation, dans notre héritage familial, par rapport, c'est très contre-intuitif de faire le tri et de se séparer d'objets. Donc cette méthode-là, elle permet vraiment de redéfinir nos rapports aux objets, par rapport à ce qui nous entoure. Voilà. Et on prend conscience de l'abondance dans laquelle nous vivons, et puis on finit par se demander si avoir tant d'objets, est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée à notre bonheur.
On va prendre une dernière question au 3921, notre répondeur, c'est Jade qui nous l'a posée, on l'écoute.
Salut Mélanie, salut Julia. Alors, je suis une adepte de la méthode Marie Kondo, mais il y a un endroit où ça ne passe pas, malheureusement, c'est la cuisine. C'est toujours le bazar, j'arrive pas à m'organiser. Comment je pourrais faire? Merci.
Très rapidement, Christine, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Adapter le nombre d'accessoires, de cuisine, sa vaisselle, etc. à ses placards et à son espace de rangement et pas le contraire. Pas essayer de faire entrer des choses. On n'est pas là pour faire du Tetris. Dans la vie, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment peut-être réduire. Évidemment, moins on a d'objets, moins on a de choses à gérer. Et puis, vraiment, essayer d'avoir du bon sens et mettre, par exemple, les épices à côté, très accessibles à côté de la plaque de cuisson, par exemple.
Et pas à l'autre bout de la cuisine, effectivement.
Et pas à l'autre bout de la cuisine. C'est s'éviter, comme ça, de la fatigue, de la charge mentale inutile.
Eh bien, merci beaucoup, Christine Tessier, de nous avoir accompagnés ce matin et surtout de nous avoir livré tous vos secrets, enfin ceux de Marie Kondo, qu'on salue d'ailleurs. J'adorerais la rencontrer un jour et lui montrer mes placards. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci. On va à présent changer totalement de sujet. Cela dit, on va parler du stress. Et c'est vrai qu'un intérieur en pagaille, ça peut en générer. Donc il y a peut-être un lien quand même entre nos deux sujets. Mais c'est d'une autre méthode que celle de Marie Kondo dont on va parler à présent. Une méthode simple et accessible à tous pour apprendre à gérer notre stress au quotidien. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui et c'est vous, docteur David Gourion, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Avec plaisir, vous êtes psychiatre et l'auteur du livre Antistress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Docteur Gourion, avec ce livre, votre but c'était quoi ? D'éradiquer complètement le stress ? C'est vraiment devenu un ennemi qu'il faut supprimer à tout prix ?
Non, alors vous avez raison, le titre est peut-être un petit peu trompeur. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress, puisqu'on peut avoir un bon stress qui est un moteur. Hein, si, moi, je ne sais pas si l'étudiant va à ses examens totalement détendu avec la planche de surf sous le bras, il a peut-être moins de chances de réussir. Et en fait, la relation entre le niveau de stress et le niveau de performance est une courbe en U inversée.
C'est-à-dire ?
Il faut un certain niveau de stress pour être au maximum de nos performances. C'est ce qui nous permet d'être tonique, d'être en éveil. Le stress, au fond, c'est une réaction face au danger, hein, initialement. Mmh. Et à l'inverse, quand le stress devient trop fort, quand il devient trop important ou trop long et qu'il s'inscrit dans la durée, à ce moment-là, vous voyez, on chute et la performance. Et là, l'étudiant, s'il est trop angoissé, va rendre page blanche. On est un peu pareil. Donc le rapport au stress, c'est un rapport complexe. Il en faut, mais il y a une sorte de ligne de crête sur laquelle il faut apprendre à naviguer.
C'est un peu comme le bazar, quoi. Tout petit peu, mais pas trop. Quoi.
Exactement.
Docteur Gourion, des livres pour réduire son stress. Franchement, il en sort quand même des dizaines chaque année, soyons honnêtes. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres ? En quoi votre méthode est différente ?
Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup d'approches et d'approches qui sont très, très utiles. Je pense en particulier à la méditation. La méditation en pleine conscience, qui a vraiment montré des bénéfices et clairement avec des études scientifiques qui valident cette approche-là. Sauf que ça ne marche pas chez tout le monde. Moi, j'en suis un exemple, par exemple. Malheureusement, j'ai beaucoup essayé. Je suis un garçon plutôt sérieux et assidu.
Ça ne marche pas sur
vous ? J'avoue qu'au bout de 30 secondes, je m'ennuie, je n'arrive pas, je ne tiens pas. Et donc, je pense que... Donc, il y avait l'idée... Bon, il y a aussi, moi j'ai eu la chance de faire un double cursus doctorat de médecine et doctorat de neurosciences, et donc d'avoir l'approche à la fois médicale et l'approche neurosciences on connaît l'explosion des découvertes dans ce domaine. Et je me suis dit qu'il serait sans doute utile d'importer dans un nouvel outil toutes ces découvertes récentes qui permettent d'accélérer l'effet des psychothérapies, de prendre des raccourcis si vous voulez. La base, c'est les thérapies comportementales et cognitives qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont bien validées. Mais l'idée, c'était d'introduire des nouveaux outils issus de ces découvertes en neurosciences. Il y a un aspect de contexte aussi, évidemment, dans l'écriture de ce livre. J'ai commencé à l'écrire au moment du premier confinement.
C'est-à-dire deux ans de Covid, voilà. ça a dû accélérer les choses.
Vous connaissez les chiffres d'augmentation des troubles anxieux, troubles dépressifs en population. Puis, peut-être un élément personnel aussi, qui est que j'ai été moi-même concerné par ces problématiques d'anxiété, de symptômes, etc. Je sais que c'est toujours un peu tabou d'en parler. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été totalement bluffé par Stromae.
Au journal télévisé.
Le plateau de TF1.
Complètement. Enfin, on parle de dépression sur une grande antenne.
C'est un sujet aussi tabou que les idées de suicide, etc., qui en a parlé. Je pense qu'il en parle mieux que tout le monde, en fait, avec sa chanson. Et c'est vraiment incroyable. Ça va formidablement aider sur la déstigmatisation. D'ailleurs, petit moment de prévention, il y a le 3114 pour nos auditeurs qui auraient des idées noires ou des idées de suicide. 3114, numéro national.
Alors, docteur, dès le début du livre, vous donnez en quelque sorte des règles pour la lecture du livre. Alors, c'est le soir et sans alcool. Pourquoi vous êtes aussi strict avec vos lecteurs ?
Mais je ne sais pas pour vous, mais comment vous vous sentez le soir quand vous êtes très alcoolisé ?
Je vais vous dire un truc, je n'ai pas envie de lire. Ben voilà. Ça, c'est sûr.
Exactement. Et l'idée, là aussi, c'est un peu... l'application des neurosciences, ce n'était pas uniquement la méthode, c'était aussi les processus autour de la méthode. Je m'explique, on peut avoir une super méthode et être très peu motivé pour l'utiliser. Donc, il fallait travailler sur les aspects motivationnels. Et ça, on comprend mieux comment le cerveau fonctionne pour se motiver. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est plus un problème de récompense et de plaisir. Et puis, il y avait un deuxième aspect qu'il faut mémoriser ce qu'on a appris. C'est plutôt intéressant de le faire le soir parce qu'on sait que la nuit, il se passe des choses très intéressantes du point de vue de la remémoration amnésique. Donc l'idée de le faire le soir avait un intérêt du point de vue de la reconsolidation de la mémoire. Mais si je le fais le soir et qu'en plus je suis alcoolisé, la probabilité que ça pénètre un peu profondément dans ma mémoire et que ça imprègne...
Et vraiment mince. Il faut le lire au mois de janvier, on est en plein dry January, le mois sans alcool. Donc ça tombe bien, c'est le moment de lire votre livre.
Exactement. Une des choses que l'alcool, et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais il y avait l'idée de ne pas effacer l'apprentissage, excusez-moi. Et de ne pas effacer l'apprentissage, mais il y avait aussi l'idée que c'est sûr qu'aider quelqu'un à gérer son stress, si par ailleurs il a une addiction à l'alcool, ça va être compliqué.
C'est compliqué. Alors la première chose que vous dites dans votre livre, c'est de ne pas se laisser envahir par des émotions négatives. Et pour nous faire comprendre l'impact de nos soucis sur le stress, vous proposez d'imaginer que nous sommes tous un roi ou une reine. C'est quoi cet exercice? Expliquez-nous.
Oui, alors écoutez, c'est une petite référence, moi, un poème de Henley que j'adore, qui s'appelle Invictus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Nous sommes tous les capitaines de notre âme. L'idée, c'était au fond de donner des outils pour dire, ce que finalement on retrouve dans les problématiques du stress, le fait que nos soucis arrivent. Vous voyez, si notre pensée était un peu comme un ciel, les pensées arrivent et défilent un peu comme des nuages, et les soucis arrivent et se présentent. La différence entre les gens très stressés, les anxieux et les non-anxieux, ce n'est pas d'avoir plus ou moins de soucis ou de problèmes dans l'existence. C'est différents mécanismes, dont un qui est le fait de se focaliser, de ruminer en boucle sur ces soucis qui se présentent. Et l'idée, c'était de dire, au fond, vous auriez un collaborateur, une collaboratrice très sympathique mais anxieux, qui vous appellerait à 3h du matin en vous disant « Tu sais, il y a un problème avec la graffeuse, il faut absolument qu'on s'en occupe. » Vous auriez envie de lui dire « Bon, c'est pas le moment là. » Et l'idée, c'est qu'on peut aussi... On ne contrôle pas nos pensées, elles viennent comme elles veulent. Ça aussi, il faut lâcher cette idée quand on dit aux anxieux « Mais écoute, contrôle-toi, ne sois pas anxieux. » Ça ne marche pas. Si je vous dis « Pensez à tout ce que vous voulez, sauf à un ours blanc. »
Ça y est, je l'ai, l'ours blanc.
Vous l'avez, l'ours blanc. Donc, on ne contrôle pas nos pensées. Mais par contre, on peut contrôler les processus, le chef d'orchestre, qu'on appelle la métacognition en neurosciences. Et donc, laisser ces nuages et ces soucis et essayer de ne pas trop les ruminer avec des outils pour ça.
Alors, docteur Gourion, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec le stress. Il pourrit nos vies, soyons honnêtes. Et depuis 2 ans, on l'a dit, les choses ne se sont pas arrangées. Alors, vous allez nous présenter très concrètement votre méthode pour reprendre les choses en main. On va tenter d'éteindre ensemble ce petit foyer de stress qui brûle sans cesse en nous. Vous l'avez compris, la Zen Attitude ce matin, c'est sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vise une meilleure gestion du stress au quotidien. Pour nous guider dans cette voie, il est toujours avec nous en studio, c'est le docteur David Gourion. Je rappelle que vous êtes psychiatre et l'auteur du livre « Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime » aux éditions Marabout. Alors vous, pour soigner l'anxiété, vous proposez de détecter les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles de notre cerveau. Ça veut dire quoi et comment on procède?
Ça veut dire que notre cerveau est capable de nous créer des petites théories du complot sans arrêt et des petites histoires inquiétantes. Je prends l'exemple d'une patiente que j'aime beaucoup, on va l'appeler Claudine. Et Claudine, elle a cette propension, cette capacité à se faire elle-même des petites histoires qui font peur. Alors, elle est partie en vrille, comme beaucoup de gens, sur la question des vaccins, du Covid, est-ce que c'est dangereux? Mais en fait, elle m'explique que dès que quelque chose ne va pas, elle se fait un petit film d'horreur. Mmh. Elle a cette capacité-là à toujours imaginer le pire. On parle de biais de négativité et à amplifier les choses. Hein, tout prend des proportions. Et alors, elle m'a sorti quelque chose de très drôle un jour. Elle me dit, mais en fait, le plus inquiétant pour moi, c'est quand tout va bien. J'ai besoin de ronger mon os comme un chien et de rallumer sans arrêt la flamme de l'anxiété. Il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que c'est comme si son cerveau était configuré sur le mode détection du danger en permanence, comme si elle scannait et qu'elle l'anticipait.
Et ça, c'est pas bien ? Parce que c'est pas mal, on est toujours, moi je suis un peu comme votre Claudine, et je trouve qu'on est toujours, on n'est jamais déçu parce que c'est jamais aussi pire qu'on l'avait imaginé.
Oui, mais alors, le truc c'est que du coup on vit pas l'instant présent, on est sans arrêt soit dans le passé à ruminer des problèmes ou des erreurs supposées du passé, soit dans le futur qui n'existe pas encore.
Et dans l'anticipation négative en plus.
Et souvent les problèmes qu'on anticipe soit ne se présentent pas, soit se présentent différemment de ce qu'on avait anticipé. Moi la métaphore que j'avais donnée à Claudine, c'est qui me disait, mais si, il faut anticiper, c'est comme ça qu'on se prépare, etc. Je lui dis non, c'est des mécanismes de surcontrôle. On ne peut pas se préparer, pas plus qu'un surfeur.
Se préparer... Vous aimez bien les métaphores de surf aussi.
J'aime bien la métaphore de surf, elle est très reprise en psychologie positive parce qu'elle est très juste. Le surfeur ne peut pas prédire à l'avance quelles vont être la forme et l'intensité des vagues, du vent, des courants, etc. Il ne peut que s'y adapter et s'il s'y adapte à l'instant présent, il va prendre un plaisir fabuleux. Alors que s'il essaye de se redire et de prédire, il va s'angoisser, il va tomber.
Comment vous avez aidé Claudine justement à faire partir, à éradiquer ces fake news de son cerveau ?
Alors justement, il y a des techniques pour ça. On peut éteindre ces incendies et surtout on peut apprendre. Au fond, l'idée, ce n'est pas de prendre chaque pensée anxieuse une par une pour la modifier, ça prendrait un temps fou. Et Claudine, elle a une imagination incroyable, donc le lendemain, elle viendrait avec une nouvelle pensée anxieuse. C'est de lui donner des processus pour atténuer, sinon éteindre, la façon dont son cerveau va ruminer en permanence, lui donner des outils. C'est en fait parler au chef d'orchestre. Hein. On a une sorte de chef d'orchestre dans notre cerveau qui régule les pensées. Et c'est l'objectif de cette méthode anti-stress que d'acquérir ces outils.
Mais on lui dit quoi au chef d'orchestre pour qu'il se calme ?
On lui dit « Regarde ce que tu fais et est-ce que ça marche ?» On lui propose, par exemple, je propose dans la méthode un exercice de rumination. Voilà, on va faire l'essai, vous allez ruminer. Prenez un problème récent qui vous enquiquille.
J'en ai un.
Prenez un quart d'heure et ruminez-le et ne faites que penser à ça. Si vous avez le sentiment que c'est efficace et que ça a été utile, gardez ce processus de rumination.
J'en ai pas trouvé encore.
Mais si vous vous rendez compte que ruminer à 23h30 dans votre lit n'a pas résolu les problèmes, etc., peut-être que déjà la prise de conscience de « je rumine », je peux monitorer mon niveau de stress et j'ai d'autres stratégies, c'est déjà quelque chose de libérateur.
Vous avez raison, parfois on se saoule soi-même avec ses propres ruminations.
Sans vécu, hein, Julia,
bah ouais, moi je rumine à mort. Vous dites qu'il faudrait se mettre en mode chat, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. C'est quoi le mode chat ?
Alors j'avoue que j'envie beaucoup les chats. Moi j'ai deux chats magnifiques et il m'est souvent arrivé de rêver que j'aurais largement, si j'avais eu le choix, préféré être un chat. Ils ont, outre le fait qu'ils sont extrêmement beaux, ils ont cette capacité, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des petits félins, cette capacité de switcher d'un mode « je roupille complètement, je suis complètement avachi, le ventre en l'air » vers un mode hyper attentif, comme si leur vie se jouait quand il y a un moindre petit bruit, une petite mouche bizarre qui vole contre la vitre.
C'est vrai.
Et ils ont l'inverse, ce qui est encore plus intéressant, cette capacité à re-switcher alors qu'on a l'impression qu'ils sont en train de jouer leur vie.
On vient de faire les foufous de jouer, tout d'un coup,
sur le sofa, le ventre en l'air, et il est sur ce... Et au fond... L'une des problématiques des gens qui souffrent du stress, c'est pas tant d'avoir des soucis, je redis, tout le monde en a, c'est de rester bloqué. L'attention reste bloquée sur le souci en permanence. Je me suis dit que si on arrivait à travailler, comme on fait des exercices d'assouplissement du dos, à flexibiliser l'attention et donner des outils aux gens pour leur permettre, non pas de se transformer en chat, mais d'avoir une meilleure flexibilité attentionnelle, ça les aiderait sans doute à rester moins bloqués dans les ruminations.
Moi, si vous rêvez de devenir un chat, je vous conseille encore une fois le livre, Anti-stress du docteur David Gourion, dans lequel il y a toute la méthode expliquée, évidemment. On a une question d'Isabelle sur Insta qui dit « Il m'arrive de temps en temps d'avoir des crises d'angoisse avec la boule au ventre ou la poitrine bloquée. Avez-vous une technique, un exercice pour bloquer ce genre d'attaque panique ?»
Oui, bien sûr. Alors, ce sont fréquents les attaques de panique, vraiment, et rassurez-vous, il y a vraiment des techniques qui marchent bien. On m'en décrit dans le livre, je vous en donne une toute simple, qui est « Apprenez à respirer avec une paille ». Ça fera une inspiration lente, vous mettez vos mains sur votre ventre et il faut que les mains remontent, c'est-à-dire que le ventre se gonfle. Vous inspirez très lentement, vous gardez l'air une fois que vous l'avez inspiré 4-5 secondes et puis ensuite vous soufflez à nouveau à travers la paille.
C'est un peu de la cohérence cardiaque.
Et vous faites ça quelques respirations, 3-4 respirations, c'est souvent suffisant, puis vous laissez passer les nuages. Et puis éventuellement, vous pouvez lire cette méthode aussi, ça vous aidera.
Alors docteur Gourion, expliquez-nous pourquoi lorsqu'on est stressé, on aura tendance, comme moi, enfin comme beaucoup de gens, à grignoter. C'est fou, mais surtout l'appétence au sucré dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi et comment justement on peut éviter en cas de stress, de survenu de stress, de jeter sur n'importe quoi?
Mais c'est une question très importante que vous posez. On connaît mieux aujourd'hui, notamment grâce aux neurosciences, les liens entre le stress et l'appétit, les neuropeptides de l'appétit, de la satiété. Je crois que vous avez déjà évoqué sur ce plateau ces problématiques-là, de ghrelin, leptine, etc. Et on a découvert que, mais on le sait intuitivement, il y a des fins qui sont des vraies fins, et il y a des fins qui sont des fins purement émotionnelles liées à un niveau de stress, et où l'alimentation va jouer un rôle, un peu comme on parlait de l'alcool tout à l'heure, un rôle presque un peu addictif de « j'ai une stratégie pour me calmer ».
Un peu doudou, quoi.
Voilà. Et en fait, l'objectif de la méthode, c'est aussi, c'est pas uniquement d'apprendre de nouvelles stratégies, c'est aussi de désapprendre des stratégies qui peuvent poser problème. je vais pas jeter la pierre. Moi, le premier, il m'est arrivé de craquer sur une boîte de M&M's ou que sais-je. Mais simplement, quand ça devient une habitude, quand ça devient une stratégie régulière, là, ça peut devenir problématique. Et outre le fait que ça a un impact sur le poids, ça a un impact aussi psychologique, parce que les gens ne s'aiment pas beaucoup. On a l'impression qu'on a perdu le contrôle, qu'on est nul, on se fait des reproches. Donc, il me semblait utile dans cette méthode, au-delà des sept premières chapitres, qui sont des séances de lecture, comme une psychothérapie toutes les semaines, de développer quatre protocoles personnalisés, et il y en a un spécifique sur les problématiques d'hyperphagie et de grignotage compulsif.
Eh bien voilà, c'était très clair. Merci beaucoup pour vos conseils anti-stress, docteur Gourion.
Merci,
c'est vraiment
vous.
Des conseils pratiques, simples et plus qu'utiles, surtout dans le contexte actuel qu'on traverse avec plus ou moins de facilité. En tout cas, on a tout bien noté. On se sent déjà un peu plus zen, rien qu'après vous avoir écouté.
Merci
beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfaits pour vous. Il y aura d'abord la chronique du chef Abdel Alaoui qui va nous faire redécouvrir les bienfaits du brunch et nous donner sûrement sa version 2022 du brunch parfait. Ensuite, on écoutera les conseils sportifs du coach Jean-Marc Delorme en ce qui concerne un temps très important dans le sport. Moi, c'est mon préféré.
Ça m'étonne pas.
Et oui, c'est le temps de récupération. Et vous allez voir, c'est pas juste s'affaler sur le canapé. Et enfin, on terminera avec les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous parler des ingrédients vraiment chouchous pour notre peau en hiver. Donc, que des bons plans, que des bienfaits et tout ça, c'est sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être Feel Good. Vous le savez, dans notre émission avec Julia Vignali, notre seul but, c'est de prendre soin de vous jusqu'à midi et demi. Et à présent, on va lancer comme tous les jours, à midi, notre tour de table des tendances. Il est midi et une minute, c'est bon plan, vous savez, ces conseils à la mode, mais qu'on décrypte pour vous. Et donc, on va démarrer avec un indémodable, le brunch. On l'aimait déjà en 2021 et on va en raffoler encore plus en 2022 grâce à la version d'Abdel Alaoui. Bonjour Abdel.
Bonjour les filles, bonjour tout le monde autour de ce plateau. Alors, il peut être servi à l'assiette, à la planche ou sur un plateau, à volonté, même à l'hôtel. Je vais tout vous dire sur le brunch.
Oh, génial, j'adore les brunchs. Génial. Ensuite, dans l'ordre, ce sera notre coach sportif de se mettre derrière le micro. Bonjour Jean-Marc Delorme.
Bonjour Julia Vignali.
De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de récupération et c'est quelque chose à ne pas négliger parce que c'est aussi autant important que
le sport en lui-même.
Ne t'inquiétez pas, je fais que ça, moi. Récupérer.
Ça fait deux ans qu'elle récupère.
Ah ouais, récupérer. Bon, je suis pas mal, je pense. Et enfin, on terminera en beauté avec vos conseils avisés, mon cher Benjamin Lévesque. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, les filles.
Vous allez soigner notre peau, même grâce à des ingrédients bien spécifiques, cette fois, je crois.
Eh oui, l'eau d'iceberg, du litchi ou encore l'étoile des glaces. Ça fait rêver, hein, comme ça. Eh bien, ce sont des ingrédients qui sont parfaits l'hiver pour avoir une peau qui ne se dessèche pas.
Ça gèle. Parfait, Benjamin. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on va prendre soin de nos estomacs qui commencent à gargouiller dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Abdel Alaoui, et si on brunchait ce midi avec vous ? Moi, j'avoue, je suis une grande fan du brunch le week-end. On fait ça régulièrement du côté de chez moi. Rassurez-vous, je ne suis pas derrière les fourneaux, mais j'ai quelques excellentes adresses que je partagerai volontiers avec vous.
Yes.
Mais avant ça, on va vous écouter.
Alors le brunch, c'est un peu de musique. Le brunch, c'est avant tout la combinaison entre breakfast et lunch, petit déjeuner et déjeuner. Le brunch, ça veut dire une journée entière à la fraîche. Ça veut dire que le matin, on prend le temps, on paresse, on se câline, on regarde comme ça, on se regarde au fond des yeux. Ça veut dire qu'on mange quand on veut, à son rythme. Ça veut dire que l'après-midi durera tout le temps qu'on voudra et on y fera ce qu'on voudra et que même si on veut, on fera rien du tout. C'est ça le brunch.
C'est ça. Ouais. D'où ça vient le brunch, Adèle ?
Alors, le brunch, au départ, n'est pas américain, hein, mais anglais. Il a été inventé dans certaines familles aisées qui attendaient que les hommes soient revenus de leur partie de chasse matinale pour se rassasier avec le gibier en fin de matinée. Du coup, ils mangeaient du salé, du sucré, et c'était plutôt vers midi 13h.
Mm-hmm.
Alors, il commence à arriver aux États-Unis dans les années 30, dans les milieux populaires, parce que c'était pratique et économique, et que cela permettait de préparer un repas le dimanche au lieu de deux, et donc de passer de moins de temps en cuisine.
Ça vous plaît ça, Julia ? Moins de temps en cuisine.
C'est pour ça que j'adore le brunch. Il n'y a pas grand-chose à faire,
bien.
Finalement.
Après, on a eu les années 50, l'arrivée de la convenience food. Vous connaissez
c'est quoi, ça, non ?
Alors, c'est les plats déjà préparés, mélange de tout fait, de pancakes, de cookies. Mmh. On met dans le saladier un peu d'eau, hop, on mélange et c'est préparé. Il y a des boîtes de conserve. La femme américaine, elle ne veut plus passer trop de temps en cuisine.
Ah, mais c'est ça, vous êtes américaine.
Mais je suis tellement américaine, Adèle.
Giulia Vignali.
Et en France, c'est arrivé quand?
Alors en France, au départ, ça marche pas très bien. Le français aime faire le marché, prendre son temps pour cuisiner, choisir les bons produits. Ça, c'est typiquement français, hein, Jean-Marc?
Oui, tout à
ouais.
fait.
Ouais, donc tout l'inverse des Américains. Des Américains. Mais depuis quelques temps, c'est devenu un peu la norme hipster. C'est hyper branché d'aller bruncher, de se faire un bon brunch dans les rues de Marseille, chez Julia Samut, rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, ou à Bordeaux, au Mama Shelter. Comme ça, bonne ambiance. Ou à Paris aussi, en famille, ou avec ses potes. Voilà, dans ces villes, on aime bruncher. Alors, comment on fait un bon brunch?
Bah oui, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il faut pour un bon brunch?
On va commencer par le salé, hein, des petits œufs brouillés avec un petit sel de truffe.
Ça, c'est la base.
Une omelette avec de l'huile d'olive, juste casser des œufs comme ça dans l'huile d'olive, du sel. Et on sert ça. Elle est à peine baveuse, hein, faut pas trop la cuire. Un bon houmous avec de la patate douce, juste des pois chiches mixés avec une patate douce cuite, du sel, du poivre monté à l'huile de sésame, servi sur des pitas, un morceau de fromage de brebis ou même une salade à la grecque. Facile, olive, concombre, tomate. C'est assez simple. Après, on va servir un petit jus de fruits pressés.
Oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'on boit?
Alors, grand classique, on peut mettre du jus d'orange, mais ça, c'est facile. Mais soyez au plus fou avec un smoothie d'avocat, mixé avec des dattes, des noix, du lait de coco, du miel, et juste venir zester son citron par-dessus, comme ça, c'est excellent. Alors, une boisson chaude, là, on n'a pas le choix. Soit du café, soit du thé ou un chai tea.
Ah, c'est hyper bon, ça, chai tea, bon, hein. J'adore.
C'est plein d'épices, du gingembre, de la cannelle, du poivre, de Sichuan, tout ça infusé dans l'eau avec du thé vert, et c'est très bon. Après, le sucré. Alors le sucré, c'est pour les gourmands. On va faire des pancakes classiques américains.
Ça, c'est pour vous, hein, Jean-Marc, après les abdos. Absolument. Bien.
Hyper fluffy, tenez, regardez. Moi, j'en ai quelques pancakes,
oui.
D'ailleurs.
Julien me tend les bras, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je
veux?
En fait,
elle veut
que je lui passe les assiettes.
Voilà, il y en a là-bas, des pancakes. Alors, moi, je vais vous donner une recette de pancakes. Celle-ci, c'est la recette d'un restaurant qui s'appelle 46 and 30, qui est 46 rue de Turbigo à Paris. Il faut absolument y aller. Sarah, elle a tout compris. C'est un brunch qui n'est pas très cher, juste avec des bons produits. Alors, pour faire des bons pancakes, il vous faut 10 centilitres de lait fermenté, hein, 3 œufs, 300 g de farine complète, 50 g de sucre cassonade, une gousse de vanille bien grattée pour récupérer ce qu'on appelle le diamant noir, 2 bananes.
C'est quoi le diamant noir?
C'est les petits grains de vanille.
Ah oui.
Alors on va prendre un saladier, tout simple. Hein. On va venir écraser les bananes avec le sucre. On va rajouter les œufs, on va les casser un par un. On va rajouter la farine complète, les gousses de vanille, le lait fermenté, donc on n'a pas besoin de levure chimique, ça va gonfler tout seul. On mélange tout ça, on bat bien. Et après, on va laisser reposer 30 minutes. On prend une poêle bien chaude. On va jeter une noix de beurre dedans. Mm-hmm. On laisse fondre, bien caraméliser. Presque un beurre noisette, un peu brun. Mm-hmm. On prend une louche et on fait la taille d'un cercle de à peu près 10 cm de diamètre. Et là, ça
Ils
va devenir soufflé. Ça va devenir fluffy,
hein,
comme on dit. Fluffy.
Fluffy, et c'est ça, c'est un côté pas trop cuit, un peu moelleux.
Mi-cru, c'est ça.
Mi-cru, mi-cru.
Un connaisseur, Benjamin.
Bien soufflé.
Quand on parle
bien,
de cuisine, faites appel à moi.
Bien croustillant. Et on sert ça, évidemment, avec un bon sirop d'érable de chez Cruchon. Voilà. Et n'oubliez pas cette adresse, elle est ouf. Rue Turbigo, ça s'appelle le 46 and 30 chez Sarah. Et c'est de la tuerie, c'est de la bombe.
Jean-Marc, c'est quoi votre péché mignon, vous, au moment du brunch? Les œufs, les sportifs, ça aime les œufs.
Ouais,
non
moi j'aime bien les œufs, mais j'aime bien le brunch en général. Je trouve ça hyper bon. Ça donne envie, mais j'abuse un peu quand je suis sur le brunch.
Ah ouais.
Du
coup,
vous abusez du sucré ou du salé?
Ouais, de tout. Je me lâche complet.
Mais on a le droit au moins une fois par semaine, Jean-Marc. Si on fait du sport, on a le droit de se lâcher sur le brunch quand même. Non
ah, mais bien sûr, oui, bah, évidemment.
Julia, vous mangez et puis après vous allez faire du sport. Un brunch, c'est combien de séances de sport?
Ça dépend ce qu'il y a dedans, visiblement. Ce que disait Adèle, c'est qu'il y a un choix quand même qui est conséquent. Donc, ça dépend.
Mangez ça, Julia, c'est deux pancakes, gros pancakes, là, c'est au moins trois séances.
En fait, ça charge.
Les pancakes, combien de séances de sport?
Je n'en sais rien, vous avez passé l'après-midi.
C'est question.
Non, mais ça tout dépend de ce qu'on va mettre dessus. Et en plus, le brunch, l'avantage, c'est qu'il y a du salé, c'est toujours moins gras que le sucré. Enfin,
c'est quoi votre péché mignon à vous, Abel?
Moi, j'aime bien le beurre salé, comme ça, fondu, avec un œuf au plat, du bacon de dinde grillé, avec une gaufre un peu soufflée, un peu fluffy, et de la cream cheese.
Et chez les Danois, Benjamin Lévesque, on fait quoi?
Mais moi, donc ça se voit pas là, parce que c'est de la radio, mais je suis aussi sportif que Jean-Marc, donc moi, ce sont des œufs, des œufs brouillés.
Heureusement qu'on bosse à la radio.
Et
hein.
du fromage, j'adore le fromage, c'est mon péché mignon.
Il va falloir en manger un petit peu plus, Benjamin, quand même, si vous voulez ressembler à Jean-Marc. Merci beaucoup, Adèle.
Alaoui pour tous ces conseils culinaires très inspirants que l'on va s'empresser dès ce week-end de tester chez nous. Il y aura encore pas mal de choses que vous allez vouloir tester chez vous, donc restez sur Europe 1. Les conseils sportifs de notre coach Jean-Marc Delorme arrivent. On ne devrait pas trop souffrir aujourd'hui puisqu'il va nous expliquer l'importance de la récupération dans le sport, un temps que les sportifs du dimanche apprécient particulièrement. On verra avec lui si on peut récupérer et bruncher en même temps, qui sait, hein, c'est peut-être possible. Et puis il y aura aussi les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Il va mettre en avant des ingrédients divers excellents pour notre peau. À tout de suite sur
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Notre séquence tendance se poursuit, toujours plus de bons plans, plus de conseils, juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, c'est aux plus sportifs d'entre vous que l'on va s'adresser. Enfin, peut-être que les moins sportifs pourraient être aussi intéressés, aussi, à remarquer, aussi. Puisqu'on va surtout parler de récupération, Jean-Marc, on vous écoute.
Absolument.
Alors c'est quoi la récupération et ça sert à quoi?
Alors, la récupération, c'est l'ensemble des processus mis en œuvre permettant aux sportifs ou à la personne faisant du sport de retrouver l'intégrité de ses moyens physiques.
Alors, en langage normal, après
la définition du petit Larousse. Alors, c'est ce qui va permettre.
C'est la flémasse,
de récupérer ses moyens physiques et psychologiques après une séance de sport.
C'est le repos, on peut dire ça, le repos du sportif.
C'est le repos, mais qui va permettre, je ne mets pas tout par terre, qui va permettre de reprendre, je dirais, sa forme initiale pratiquement, autant sur une usure physique qu'une usure psychologique. Alors, elle va avoir, donc on va considérer deux sortes de récupération. Alors, la récupération active, alors celle-là, on va passer un petit peu vite dessus parce que ça correspond vraiment à des sportifs qui font, par exemple, des séries de course à pied, puis entre les séries, ils vont récupérer de manière active ou en trottinant. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la récupération active. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la récupération passive.
Ça, on connaît. Ah ben ça, on voit bien ce que ça peut vouloir dire.
C'est quand on fait...
Voilà.
Alors, par exemple, après une séance de sport...
Ou après un brunch.
Alors, on va éviter de faire le brunch tout de suite. En revanche, on va... Enfin, et pourquoi pas un brunch? Ça dépend ce qu'on va manger. Mais on va essayer de se réhydrater. Donc, on va reprendre, on va récupérer l'eau perdue durant l'entraînement. Donc, ce qui est évidemment très important. Ouais. Voilà, ce qui est très important pour la récupération.
Donc, il faut boire. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'après une bonne séance de sport, il faut
boire.
Et pas un smoothie d'avocat comme Abdel, de l'eau quand même de préférence.
Ouais, c'est mieux de l'eau au départ.
Mais quoi, une petite gorgée ou on est sur la demi-bouteille? On parle de quoi quand on dit boire?
Ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez fait. Mais en gros, il faut savoir que durant une journée, c'est 1,5 litre, 2 litres par personne. Donc, il faut, si on a perdu
beaucoup d'eau,
il faut quand même reconstituer ses stocks.
Deux grands verres d'eau, déjà, donc, c'est bien pour démarrer. Hein.
Ça, c'est la première chose. Les stocks de glucides aussi, si on a fait de l'effort, voilà, c'est ça. Hein, donc, le glucide, il va falloir en réingérer. Donc, ça, c'est important.
Il faut prendre du sucre.
Il faut prendre du sucre ou alors des aliments comme des pâtes ou un petit peu de riz, etc., qui vont reconstituer vos stocks de glucides.
J'ai un pancake, à mon avis, il y a des glucides.
Il y a même plus que ça. Et puis aussi, pourquoi pas prendre des protéines s'il y a eu des dommages musculaires, par exemple, si vous avez cassé des fibres musculaires parce que vous avez couru, vous avez sauté, etc.
C'est
pas mal de reprendre des protéines. Ça va faciliter ce phénomène. Donc,
et
déjà,
dormir aussi. Il faut dormir après une bonne séance de
dormir,
sport.
Dormir, c'est hyper important parce que le sommeil permet de sécréter une hormone de croissance qui permet la régénération et la croissance cellulaire. Donc, un manque de sommeil se répercute sur les capacités motrices.
Ah oui.
Donc, il faut faire très, très attention, notamment l'endurance. Donc, si vous ne dormez pas, vous allez courir, par exemple, vous allez faire votre footing une heure, ça va être compliqué.
Et en plus, j'avais entendu dire que ça fait de la rétention d'eau si on dort mal. Non ? Ah
ben
c'est pas pour ça alors.
Attends. Oui,
bon,
ça
gonfle.
C'est pas, moi je pensais que c'était pour ça que j'étais toute gonflée.
Et ça va. Si.
Je suis vraiment désolée.
Aussi, si vous ne dormez pas, ça va entraîner une baisse des défenses immunitaires.
Ah bah donc dormez, je crois. Ça, dormez.
Voilà, Julien, faut pas dormir dans une baignoire en fait.
Effectivement, ça favorise le stockage des graisses et effectivement, comme le disait Julia, aussi la rétention.
Alors, vous voyez que je suis pas folle. Voilà. Le sauna, c'est bien pour récupérer?
Alors, le sauna, c'est bien d'un point de vue psychologique, surtout.
Hein,
mais ça va aussi permettre de réduire un petit peu les douleurs musculaires et la fatigue.
Vous nous avez dit tout à l'heure, en rentrant, je dévoile un petit secret, que vous préparez une grande course en VTT, on va pas dire laquelle, mais très très grave. Enfin, très très grave.
Très grave.
C'est sérieux, parce que moi, si je la faisais, ça serait grave, mon état. Mais vous, vous pratiquez en tant que grand sportif, sportif de haut niveau, le sauna, ça
fait... absolument.
Et vous, qu'est-ce que vous, vous trouvez comme bienfait, justement?
Bah ça, c'est-à-dire que ça, ça
c'est de la détente, en fait.
C'est de la détente, ça réduit la fatigue, les impressions de douleur musculaire, voilà. Ah, par contre, c'est un protocole assez, assez particulier. Il faut que la température soit aux alentours de 85 degrés, d'accord, qui est entre 15 et 30% d'humidité.
Et le froid, vous en pensez quoi du froid? Tout ce qui est cryothérapie, là.
Alors, le froid, c'est très bien. C'est un processus qui permet d'enlever les réactions inflammatoires et ça favorise effectivement la récupération. Alors, c'est pas la peine d'aller forcément dans les bains de cryothérapie et tout, même si ça fonctionne. Mais par exemple, vous pouvez vous mettre, si vous êtes à côté d'une rivière, très bien, trempez vos jambes.
Comme ça, le
froid. Ça sert à rien.
Il y a la scène, là, qui
va loin. Ça peut faire aussi. C'est un effet anti-inflammatoire et analgésique.
Alors Jean-Marc, là on doit laisser la parole à d'autres chroniqueurs de qualité dans cette émission, mais vous viendrez nous reparler de tout ce qui est étirement, parce que ça nous...
Évidemment, les étirements, ça fait partie aussi de la récupération.
Très bien, merci beaucoup Jean-Marc cet éclairage important sur ce temps du sport, la récupération qui a donc vraiment son importance, et grâce à vous, on connaît tous les détails des bienfaits de ce que ça peut nous apporter, en tout cas en termes de performance. Allez, je parle de performance, donc je me tourne vers Benjamin Lévesque, évidemment. Vous nous aviez parlé au mois d'octobre des ingrédients de l'automne et qu'on peut retrouver donc dans nos cosmétiques. Et bien maintenant, on n'est plus en automne, on est en hiver. Donc on vous écoute pour les nouveautés version hiver cosmétique.
Et oui, alors à commencer par le litchi, hein, ce fruit asiatique que l'on consomme beaucoup pendant les fêtes jusqu'au nouvel an chinois qui est au mois de février. Alors j'imagine que vous avez tous autour de la table déjà mangé un litchi.
Ah bah oui.
Quelle est la première des sensations?
C'est très frais, juteux.
C'est bon.
Exactement.
Ça pique.
C'est comme un Kinder, le litchi. Enfin, le noyau, il faut qu'il soit vraiment très fin pour avoir de la bonne chair autour.
Voilà, en général, il est trop gros, le noyau, moi, je trouve.
Ouais, voilà.
donc, c'est hyper juteux, vous l'avez dit, Mélanie. C'est parce qu'il est, gorgé d'eau, hein, 80 grammes d'eau pour 100 grammes de litchi. C'est plus que la pêche ou que Julia. Et c'est parce qu'en fait, dans sa chair, il y a des glucides qui retiennent l'eau. Eh bien, vous avez la marque Matisse qui a introduit justement des extraits de litchi dans ses crèmes pour avoir ce côté hydratant, hein, puisqu'ils se sont dit que si ça fonctionne sur le fruit, ça va fonctionner sur la peau. Donc, vous avez cette crème spéciale peau sèche pour retenir l'eau dans la peau.
Et vous êtes venu avec une fleur, Benjamin, c'est quoi?
Et oui, c'est la fleur d'Edelweiss qui est aussi appelée étoile des glaces.
Ce sont des vrais,
là? C'est fausse plante très rare qui pousse très haut dans les Alpes. C'est une fleur blanche dont les feuilles sont feutrées de poils blancs qui sont laineux. C'est très doux, vous pouvez la caresser, Mélanie.
C'est du faux, hein, c'est en velours.
Oui, c'est du faux.
Mais c'est joli, on voit à quoi ça ressemble.
Et ces petits poils, en fait, ils vont protéger la fleur contre le climat qui règne dans ces montagnes, vous savez, avec le vent, la neige, le froid. Et alors là, même chose, hein, la marque de cosmétiques Matisse s'est dit que si cette fleur est très résistante au froid, eh bien, alors on va en rajouter dans nos crèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette crème spéciale pour l'hiver, puisqu'elle va en fait mimer ce bouclier de protection contre le froid. Et donc, ça va éviter d'avoir des rougeurs, des sensations de peau tiraillée ou desséchée.
À cause de vous, ils sont tous gelés, ils sont en train de se goinfrer de pancakes.
Allez-y, continuez, moi je mange mon petit pancake.
Benjamin, je crois que vous avez même des crèmes qui peuvent nous faire voyager dans le Grand Nord.
Oui, ce sont les produits de la marque Polar. Alors eux, ils ont un ingrédient star, c'est l'eau d'iceberg. Alors c'est une eau qu'ils vont récolter dans le détroit de Davis au Canada. Et donc, l'eau d'iceberg...
J'en ai dans mon congélateur.
Effectivement, donc
c'est du glaçon, l'eau d'iceberg, quoi,
à moins d'avoir heurté le Titanic, c'est une eau qui est pure, qui est sans pollution, sans traitement chimique. Et selon la marque, eh bien, ça permettrait d'hydrater la peau sur du plus long terme. Et
alors, c'est une excellente marque parce que moi, je l'ai utilisée en Laponie, en expédition. J'ai utilisé ça, c'était génial.
On l'utilise énormément pour les sportifs. Et justement, on va aller en Laponie, Jean-Marc, avec une crème qui est extrêmement fondante. Tenez, je vais vous la faire passer. Vous pouvez la mettre sur vos mains ou sur votre visage. Et en fait, la fabrication de cette crème a été inspirée des femmes lapones, comme le raconte Anne-Sophie Garas de la marque Polar.
On va retrouver à l'intérieur des baies arctiques, qui sont au nombre de 3, framboises, érelles et mûres des marais. De façon générale, les plantes arctiques ont cette capacité à synthétiser des actifs protecteurs puissants pour la simple et bonne raison qu'elles vivent et survivent dans des conditions climatiques extrêmes, puisqu'on est sur des zones qui vont être balayées par des vents très violents, avoir des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 50, des zones dans lesquelles il n'y a pas de lumière 6 mois dans l'année. Donc les plantes, pour vivre et survivre, voilà, ont cette capacité à développer des actifs protecteurs puissants. Pour la petite histoire, les femmes lapones, pour protéger leur peau, avaient l'habitude de s'enduire de baies, en tout cas d'utiliser les pouvoirs protecteurs de ces baies arctiques.
Alors Benjamin, on a tendance à dire dans cette émission qu'il faut manger de saison. On peut faire la même chose avec les ingrédients dans nos cosmétiques ?
Oui, alors vous avez une marque qui est assez originale qui s'appelle Matière Brute. En fait, tous les trois mois, ils lancent une gamme par saison. Ainsi, le mois dernier, ils ont sorti leur produit hiver avec, donc vous avez une huile, une crème et un stick à lèvres. Et en fait, ils sont très concentrés en menthe poivrée. La menthe poivrée, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un vasoconstricteur. C'est-à-dire qu'il va limiter la dilatation des vaisseaux sanguins, qui est un phénomène qui est très fréquent en hiver avec les variations de température, le chaud-froid. Et donc, avec cet ingrédient, eh bien, fini les rougeurs et la coupe rose sur la peau.
C'est génial. Et c'était la galette le week-end dernier. Est-ce que vous avez une crème à la frangipane ?
Alors, je sais que Mélanie, c'est votre dessert préféré.
Oui, c'est mon gâteau d'anniversaire.
Je suis désolé, je vais vous décevoir.
Même chaque année.
Je vais vous décevoir, je n'ai pas trouvé de crème avec l'odeur de galette.
Oh, dommage.
En revanche, en cosmétique, on utilise beaucoup l'huile d'amande douce.
Oui.
Et en fait, il y a très longtemps, à votre époque, les filles, on utilisait cette huile pour la peau des bébés.
Tout à fait.
Donc, je vous en ai rapporté une, donc c'est une huile à base d'amande douce de la marque Estime Essence.
Ah, j'adore.
Hop, voilà, un petit coup pour chacun. Voilà. Et alors, c'est une huile qui reste assez en surface de la peau et qui va donner justement cet effet peau douce.
Et quand on met tous les produits, là, comme on vient de le faire, parce qu'on s'est tous tartinés d'à peu près tout ce qu'il y avait sur le plat dans le studio, là, on est bien hydraté pour l'hiver.
Là, vous pouvez
bien
sortir sans vêtements, vous êtes protégé.
Ça sent très bon et c'était, les textures que vous nous avez présentées étaient très agréables. Merci beaucoup.
Je prends soin de votre peau.
Et les garçons confirment, Abdel,
ouais,
Jean-Marc.
Tout est
vous êtes bien tartinés, bien huilés.
Merci, Benjamin, pour cette chronique beauté pleine d'infos, de conseils pratiques tout à fait applicables dans notre routine beauté en hiver. Et surtout, merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour ?
Alors Julia, demain, on va parler de nos enfants et des problèmes les plus fréquents et surtout plus ou moins sérieux qu'ils peuvent rencontrer à l'école. Disputes avec les copains, voire pas de copains du tout, phobie scolaire, harcèlement. Quand l'école fait souffrir les plus jeunes, on vous proposera pas mal de solutions et de conseils.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.